il est 20h. Saufresse au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9.
François Mitterrand est élu président de la République.
Cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, 50%.
Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix.
Moi, président de la République, 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 moi, président de la République.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de Tous Politiques, votre émission politique de Transistor. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maëlys, de Pierre et de Rémi. Bonjour à vous trois.
Bonjour Mathias.
Bonjour.
À l'heure où je vous parle, c'est officiel, contre toute attente, c'est Donald Trump qui vient d'être élu président des États-Unis d'Amérique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Il n'y a rien de militant à cela, mais nous préférons se laisser le temps de la réflexion, regarder l'évolution des événements, les déclarations des uns et des autres, plutôt que de réagir à chaud, d'autant plus que bon nombre d'entre vous ont déjà été assaillis d'informations, d'images, de discours et de commentaires. N'ajoutons pas trop d'eau au moulin, de peur qu'il ne flanche. Mais pour ceux qui souhaiteraient ardemment connaître notre fine analyse de la situation, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons bien évidemment sur ce coup de tonnerre dans un prochain numéro. Au sommaire de cette édition, Maëlys nous fera une sociologie du vote, Pierre répondra à la question que vous vous posez tous, mais à quoi sert le centre ? Je quitterai ma casquette d'animateur pour vous parler des affiches de campagne, et enfin, la chronique de Rémi nous réservera quelques surprises.
Assurément.
Sans plus attendre, je passe la parole à Maëlys. Bonjour Maëlys.
Bonjour Mathias.
Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler un peu sociologie du vote. Je ne vais pas vous dire, en fait, si l'électeur FN a le crâne rasé et de jolis tatouages dans le cou, ou regarde le journal de TF1 le soir et a peur des no-go zones, si l'électeur écolo est un vieil hippie libertaire qui colle des stickers stop nucléaire sur le pare-brise de sa Prius, ni si l'électeur de Debout la France se balade le dimanche dans la forêt de Fontainebleau avec un pull cachemire rose noué autour des épaules, en sortant de la messe pendant que ses 7 enfants sont louveteaux chez les scouts. On a tous des idées plus ou moins bien fondées là-dessus, et il y a souvent du vrai avec beaucoup de raccourcis. Non, aujourd'hui, on va plutôt faire un petit exercice d'introspection, chers auditeurs, et je vais vous demander, je vais vous poser une question. Donc, à votre avis, pourquoi votez-vous ce que vous votez ? Mathias, Rémi, Pierre, le premier qui me répond « Parce que c'est mes convictions au plus profond de mon âme, nées de mes tripes, je crois en l'ordre, la liberté, l'égalité, la patrie, les légumes bio. » Rayez la mention inutile. Je le scalpe sur place, donc un peu de sociologie dans ce monde de brutes, s'il vous plaît. Quelles sont les causes sociales qui vous déterminent ? Que votent vos parents ? Que votent vos voisins d'à côté ? Trouvez-vous que Éric Zemmour a raison ? D'ailleurs, votre mari vous a offert Le Suicide français, ce livre qui a osé dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Est-ce que vous trouvez que David Pujadas a une aura charismatique au point de vous fier à son sens si fin de l'analyse politique ? Bref, quelles sont les méchantes raisons sociales de votre vote et à quel point vous détermine-t-elle dans cet acte magnifique, républicain, démocratique, qui est l'œuvre d'un citoyen averti, passionné et raisonné, conscient des tenants et des aboutissants de son geste ? Bon, alors le premier qui me dit que gna gna gna, on est des purs esprits flottants, raisonnés, responsables, inspirés, gna 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 gna, par des idées, gna gna, je fais un lasso avec le fil du micro et je l'attrape comme un cow-boy et son bison. Il faudra plus en l'air pour longtemps. Petit aparté, je ne cherche à excuser personne, moi la première, n'est-ce pas Manuel Valls ? Expliquer le volt n'est pas cautionner la ménagère acquise à Marine qui est persuadée du grand remplacement, ni le jeune bobo dynamique qui est bien au chaud dans son quartier gentrifié et qui pense que tout le monde peut s'inscrire dans une AMAP ou aller au travail à trottinette. Bref, ces précautions prises, la sociologie politique est là pour nous éclairer la lanterne. Donc dans l'histoire de la discipline, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu affaire à des successions de modèles explicatifs qui dépendent, là encore, en fait, de conjonctures historiques, culturelles dans lesquelles ils ont été théorisés. Donc c'est un peu jargonnant, mais en gros, ça crée des cadres de pensée du vote, des paradigmes, comme on appelle ça dans le jargon. En gros, ce sont des modèles d'explication à la mode à une certaine époque dans l'histoire des sciences et qui ont expliqué le vote par tel ou tel facteur. Donc là, je vais vous en présenter 4. Qui vont peut-être vous aider à vous faire une petite auto-analyse électorale en cette période de pré-élection. Donc première explication du vote avancé au début du XXe siècle, l'environnement, la géographie, voire la géologie. Donc on doit cette brillante explication à André Siegfried, le fils de Jules Siegfried, oui, le même que la ligne Siegfried,
bien sûr,
qui après avoir essayé de se lancer en politique comme son papa, a lamentablement échoué et a décidé de comprendre en fait les raisons de son échec. Donc en fait, il publie en 1913 le tableau politique de la France de l'Ouest, où il veut saisir en fait les comportements électoraux à partir des cartes géographiques, en prenant en compte la propriété foncière, le mode d'exploitation des sols, la structure de l'habitat et aussi le rôle de l'État et du clergé. Donc sa conclusion est sans appel. Donc là, je cite M. Siegfried. Le granit produit le curé avec la grande propriété et l'orientation conservatrice. Le calcaire produit l'instituteur avec le républicanisme. Voilà, donc je vous conseille pas d'aller fourrer au fond de votre jardin pour savoir si vous appartenez à l'électorat du calcaire ou à l'électorat du granit. Mais son explication, surtout à l'époque où les gens bougeaient peu dans les campagnes, n'est pas si absurde en fait. Parce que derrière les propriétés objectives du sol, on a des modes d'organisation sociale qui vont avec et qui vont différer. Donc le granit, c'est la grande propriété, le métayage et donc les figures sociales du châtelain et du curé. Et à contrario, le calcaire, ça favorise l'essor de la petite propriété, le fermage, l'influence des idées en provenance des villes. Donc on a un paradigme qui est plus trop d'actualité dans notre monde en plein bouleversement, mais je vous laisse réfléchir sur l'implication de la caillasse au fond de votre petit jardin dans votre sympathie pour Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Deuxième paradigme apparu dans les années 50, c'est celui de l'électeur rationnel. Donc là, c'est l'Américain Anthony Downs qui a développé dans une théorie économique de la démocratie en 57. Donc en fait, c'est à l'époque qu'on est persuadé qu'on va pouvoir faire de la vraie science sociale avec des maths, quantifier, mesurer, prédire les comportements, etc. Et donc en fait, Anthony Downs va essayer d'expliquer le choix électoral à partir du comportement optimisateur en fait, de l'agent économique qui inspire l'économie. Donc en gros, l'électeur, c'est quelqu'un qui a de la mémoire, qui sait ce qu'il veut pour l'avenir. Il est assimilé à un consommateur qui va faire son petit marché dans les programmes en pondérant les coûts et les avantages du choix de tel ou tel vote. Donc en gros, voilà, il calcule, il est un peu tactique, quoi. Donc bon Juppé, non, Sarko bof, Poisson, oui, mais en même temps, il n'a pas ses chances, donc autant voter utile, bref. On a tous l'impression d'être un électeur stratège quand on met un bulletin dans une enveloppe, mais le fait est que si cette théorie permet de faire de très beaux modèles mathématiques, elle ne marche pas très très bien. Sinon, tous les électeurs étaient fut-fut, comme a expliqué le vote suicidaire de ce matin et de nos chers amis américains. Bref, la rationalité comme principal motif du vote, ça berce notre ego, mais ça explique pas grand-chose. Troisième paradigme, je vous suis toujours, ça va, je suis claire ?
Très clair.
Bon, ok. Au même moment, dans les années 40-50, donc là c'est un peu mon, enfin je suis sociologue donc c'est un peu mon paradigme préféré, mais bon voilà. Au même moment, dans les années 40-50, le paradigme de l'électeur rationnel va s'opposer à un autre type d'explication en fait, c'est celui de l'explication socio-économique. Donc ça c'est le grand sociologue américain Paul Lazarsfeld qui est son équipe de Columbia qui lance les premiers le pavé dans la mare avec un bouquin qui s'appelle The People's Choice. En 1944. Donc ils soutiennent en fait que le groupe d'appartenance des individus occupe une place importante dans leur vote et ils montrent du coup que le changement de vote est exceptionnel. Donc en gros, ce sont les caractéristiques sociales des électeurs qui jouent. Donc, je cite encore, une personne vote comme elle est socialement. Ah ah, on ne savait pas. Disent-ils. Ils construisent un indice à partir de la religion, l'environnement et le capital économique. Donc globalement, en fait, à leur époque, aux États-Unis, être protestant riche et ruraux, c'est être conservateur. Et être catholique, pauvre urbain, on est plutôt démocrate, quoi. Donc, il montre, là aussi, je vous laisse vous faire votre petite analyse, voir, dans votre cas, si vous vous appelez Sigebert ou Tancourt, si vous payez l'ISF, si vous fréquentez l'église de Saint-Nicolas du Chardonnay, et si vous avez un château en Vendée, est-ce que cela vous prédispose à voter pour Philippe de Villiers ? Je ne sais pas.
Pas d'ISF pour moi.
Pas d'ISF pour toi. Ok, on retient. Donc le dernier paradigme dont je vais vous parler, c'est celui du Michigan. Donc on l'appelle le paradigme du Michigan parce que, bien sûr, il a été développé par les chercheurs de l'Université du Michigan, dans les années 60. Donc en réponse aux deux précédents paradigmes dont je vous ai parlé. Donc dans leur bouquin phare, The American Voter, en 1960 en fait, qui est écrit par Philip Converse et ses copains, ils avancent en fait une explication qui est plutôt psychopolitique du vote, c'est-à-dire que pour eux, en fait, c'est la référence partisane qui va l'emporter sur tout le reste. En gros, en fait, on aurait un vote quasiment de l'ordre du réflexe pour notre parti de prédilection. On aurait un attachement affectif pour tel ou tel parti. Donc on est aux États-Unis à l'époque, donc c'est soit démocrate, soit républicain. Et en fait, ce sentiment d'appartenance, enfin cette référence partisane, en fait, a géré comme l'appartenance à un groupe de référence. Donc en fait, j'ai toujours voté républicain, je vote républicain. Donc ce modèle en fait présume un attachement du long terme où l'électeur américain moyen est présenté de façon un peu stéréotypée comme apathique, mal informé, voilà, et où les changements de comportement ont peu de place. Donc, bref, il est un peu teubé et facilement bernable. Peu importe le programme du moment, en fait, s'il y a l'étiquette, il vote. Donc là aussi, je vous laisse juger et vous laisser faire votre propre idée sur ce modèle explicatif en ayant à l'esprit aussi les élections de ce matin. Voilà. C'est une simple piste de réflexion qui mérite d'être approfondie parce que le paradigme du Michigan revient un peu à la mode peut-être. Voilà. Donc voilà, bien que ce soit des modèles extrêmes schématiques et qui ont été largement nuancés, contestés, mélangés, etc., ça donne quand même des pistes pour faire sa petite socio-analyse électorale. Et vous, est-ce que Rémi, Pierre et Mathias, est-ce que vous savez le pourquoi de pour qui vous votez ?
En partie, oui.
En partie, ouais.
Mes parents.
Ah oui, j'ai de qui tenir.
Contre tes parents ou comme tes parents ?
Comme mes parents.
Comme tes parents, d'accord.
Moi, c'est contre mes parents.
Contre tes parents.
De toute façon, c'est toujours avec les parents.
Mais oui, tout se joue avant 5 ans. C'est pote qui l'a dit.
Et toi, Rémi ?
Ah non, moi, je
As-tu suis des parents, Rémi ?
Le digne héritier de la tradition familiale.
Ouais, c'est bien.
Et toi, Maëlys ?
Ben moi, mes parents, ils sont pas tout à fait. Non, globalement, c'est plutôt comme mes parents, on va dire.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Maëlys. La question va être à savoir si le sol est granitique ou calcaire aux États-Unis.
Ben, je ne sais pas. On va se poser la question. On va aller forer dans le Texas et on va regarder.
Et le gaz de schiste.
Le gaz de schiste, sûrement, ça peut avoir une.
Eh bien, sans plus attendre, on va sortir de la sociologie pour répondre à une question fondamentale de notre vie politique française aujourd'hui, à savoir, à quoi sert le centre ? Et pour répondre à cette question brûlante...
50 ans après.
Et pour répondre à cette question brûlante, je me tourne vers Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathias, bonjour à vous.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Merci Mathias de m'avoir donné une chance de me ridiculiser dans cette émission en me posant cette question si intrigante et subtile. À quoi sert le centre ? Alors, en tant que centriste officiel de Transistor, je me suis senti une soudaine vocation à défendre un point de vue qui est malheureusement battu en brèche tant par la ridicule solitude de ses élus dans les instances françaises que par les mauvaises interprétations faites de son idéologie. Alors tout d'abord, non. Quand on est centriste, on n'est pas forcément quelqu'un d'influençable, qui rejoint le bord qui le paye le plus ou qui n'a pas d'idéal. On ne s'en rend pas forcément compte, mais l'histoire politique est truffée de centristes. Simple exemple, le Marais dans la Convention nationale entre 1792 et 1795. Représentant plus de la moitié des députés, ce groupe regroupait tous les modérés qui partageaient les valeurs républicaines sans pour autant tomber dans l'extrême des montagnards tels Robespierre ou Danton. Ils étaient donc au cœur de l'affrontement entre les deux bords politiques et penchaient tantôt vers les uns, tantôt vers les autres. Mais, me direz-vous avec votre verve habituelle et sans scrupule envers les centristes, ils avaient vraiment aucune ligne politique et changeaient de camp comme de chemise. Alors, oui, d'accord, c'est une interprétation rapide et qui n'est pas fausse. Mais je pourrais vous répondre tout bonnement que le roseau plie mais ne se rompt pas.
Oui, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Hein.
Voilà. Et surtout que ce n'est pas parmi le Marais que beaucoup de têtes sont tombées pendant le micmac qui a été la Révolution française.
Bah évidemment, si on se mouille pas.
Du coup, maintenant que la violence politique s'est quelque peu calmée en France, qu'on arrête de guillotiner les gens, à quoi bon être centriste ? Eh bien, chers amis, à se regrouper autour de valeurs. Parce que si on s'imagine le centre comme étant juste un champ de roseaux qui vacille au gré de qui lui fait la meilleure offre politique, c'est qu'on a l'esprit enfermé dans ce clivage gauche-droite. Mais, me direz-vous, puisque vous aimez décidément beaucoup parler avec ma voix et faire avancer ma chronique, peut-on vraiment parler de valeurs pour le centre ? Eh bien oui, depuis des décennies déjà, depuis l'invention de la politique même. Et cette valeur, c'est le libéralisme. Voilà, le gros mot est sorti. Ah, ferez-vous avec un air de fourbe sophiste ? Du coup, les centristes sont bien à droite. Eh bien non, sombre crétin des Alpes emmitouflé dans une incompréhension totale du libéralisme. Si je vous dis laisser faire les entreprises, vous me dites que c'est une valeur de droite. Mais si je vous dis laisser faire les gens, vous me dites que c'est une valeur de gauche. Alors que moi, je vous dirais tout bonnement que ce sont deux valeurs du centre. On dit que le centre, c'est prendre un peu à droite et un peu à gauche dans notre optique actuelle, c'est bien le cas. Mais on peut l'interpréter d'une manière différente. La droite emprunte au libéralisme son aspect purement économique, à savoir la liberté d'entreprendre, la liberté des entreprises. Et en même temps, la gauche emprunte au libéralisme, son aspect purement social, à savoir la liberté d'aimer et d'épouser qui on veut, ou même la responsabilité de chacun envers la communauté. J'imagine que quand tu m'as demandé, Mathias, de répondre à la question « à quoi sert le centre ?», tu t'attendais à ce que je fasse une analyse de la troisième voie en politique, du fait que le centre permet d'éviter de voter PS ou Républicain sans pour autant se tourner vers les extrêmes à gauche comme à droite. Je pourrais aussi vous parler de la différence entre Bayrou et Macron si l'on se place toujours dans cette logique droite-gauche. Mais je ne veux pas. Parce que ce serait tomber dans le piège. Ce serait considérer que pour répondre à la question « à quoi sert tel ou tel bord politique ?», il faut se pencher sur son utilité strictement politique. À savoir ce que peut apporter son électorat et quel poids il a dans l'échiquier politique. Si l'on veut se pencher sur le centre, il faut faire comme pour le FN ou le NPA. Il faut essayer de comprendre les idéaux véhiculés par les partis centristes, et autour de quelles valeurs les centristes se rassemblent. On voit dans la montée de En Marche la même chose que la montée du FN, à savoir un vote contestataire. Je pense plutôt qu'il faut se rendre compte qu'il existe une culture libérale en France. Après tout, on en a inventé tout un courant. Si les Britanniques voient dans le libéralisme une manière de redonner de la force aux individus face à l'État, en France, le libéralisme a été une manière de faire coexister individus et État. C'est pour ça que le centre a toujours été en faveur de la démocratisation de la vie politique et de l'honnêteté des politiciens. Ça peut paraître tout gentil, tout idéaliste comme ça, mais regardez ce que les gens pensent du centre, regardez le nombre d'élus centristes. Si le centre est dans cette situation, c'est bien parce que c'est un parti qui a théorisé sa propre pratique idéale de la politique, qui hélas est loin d'être respectée par tous les Sarkozy, Balkany, Valls, Montebourg, etc. Et si les extrêmes attirent beaucoup plus, c'est qu'ils apportent du prêt-à-penser, et qu'il est toujours plus simple de proposer un monde idéal que de chercher à réformer le nôtre. Le centre a toujours été une affaire de bourgeois, de penseurs, qui ne voulaient pas bousculer le monde et réfléchissaient en termes de corps électoral rationnel et éduqué. Si vous écoutez cette émission, je pense que vous faites partie de ces citoyens idéaux, curieux et prêts à se poser des questions parfois gênantes. Un des intérêts du centre est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. On ne vous dira pas qu'un état policier résoudra tous les problèmes ou qu'une nationalisation intégrale redressera l'économie. Le centre va plutôt chercher le compromis, la solution adaptée à chaque individu et non à la société tout entière. Alors, à quoi sert le centre, Mathias ? Eh ben, à rien. Le centre n'existe pas par utilité, il existe. C'est un bord politique comme un autre. Mais surtout, c'est un bord politique qui ne correspond pas à la dichotomie droite-gauche. Un anarchiste du 19e siècle partage plus de valeurs avec les libéraux classiques que la gauche révolutionnaire. Et un libertarien peut être considéré comme trop à droite par un libéral. En fait, si. Je sais à quoi sert le centre, Mathias, à remettre tout simplement en cause ce modèle dépassé et totalement abstrait de droite et de gauche en politique.
Je citerai Mitterrand. Le centre n'est ni de gauche, ni de gauche.
Merci.
Merci Pia pour cette fine analyse de l'utilité du centre. On a bien compris que l'utilité n'était pas dans le calcul politicien, mais bien dans les valeurs. Et tout de suite, je quitte ma casquette d'animateur de cette belle émission qui est Tous Politiques pour me faire chroniqueur. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet crucial de la vie politique, à savoir les affiches de campagne.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Tous les candidats à la primaire de la droite et du centre ont dévoilé leur affiche de campagne et leur slogan. C'est l'occasion de revenir sur cet élément important d'une campagne électorale. Des affiches ont marqué nos imaginaires politiques, de la force tranquille de Mitterrand jusqu'au changement, on sait maintenant, de François Hollande. Reprise des grands thèmes de campagne, images plus ou moins enjolivées qu'un candidat souhaite donner de lui-même, les affiches, qu'elles soient placardées sauvagement sur les murs ou rituellement collées deux semaines avant le scrutin, disent toujours quelque chose de la campagne qui se joue. Je vous propose tout d'abord de regarder, avec un œil attentif et critique, les affiches de nos candidats de droite. François Fillon a dévoilé une affiche de combat, en plan américain, micro à la main, drapeau tricolore en fond, et ce slogan, « Le courage de la vérité », dont il a été révélé qu'il était en fait emprunté à Arnaud Montebourg, qu'il l'avait utilisé pour les élections législatives de 1997. Courage et vérité, deux vertus politiques selon François Fillon, ça sonne assez creux. Faut-il comprendre que ses adversaires n'ont ni courage ni vérité ? Un peu délicat. Car c'est bien le souci de toutes ces affiches. Comment apparaître combatif sans tomber dans les poncifs, les redites, ou plus vulgairement, enfoncer des portes ouvertes ? Jean-François Copé a fait le choix d'une affiche en noir et blanc, avec des lignes brisées. Moderne, vous me direz. Chemise blanche et cravate, main gauche sur le menton comme le penseur de Rodin, mise en évidence de son alliance. Son slogan ? On ne recule plus. Mais on ne recule plus sur quoi ? L'avenir nous le dira. Bruno Le Maire joue sur la sobriété. Photo en contre-plongée, chemise déboutonnée, et un seul mot, le renouveau. Parce que ça rime avec Bruno. Les quadragénaires de la campagne mettent en avant ce renouveau. Seule femme présente à cette élection, Nathalie Kosciusko-Morizet, se donne des airs d'ange, habillée en blanc, grand sourire, regard vers le ciel, pour chanter les louanges de sa nouvelle société, nouvelle France. Peut-être sans savoir que c'était un peu un remake de ce que disait déjà Pompidou. Nicolas Sarkozy veut « tout pour la France », selon le titre slogan de son livre de campagne. Sourire figé et imposant, drapeau tricolore en fond, à mi-chemin entre le portrait officiel de Valéry Giscard d'Estaing et l'affiche de campagne de Marine Le Pen en 2012. Je ne sais pas si ces références sont volontaires, mais auquel cas, l'alliance des deux laisse songeur. Jean-Frédéric Poisson, le candidat du Parti chrétien-démocrate, a tout misé sur son nom. Son logo de campagne est en effet un poisson, symbole des premiers chrétiens. Et oui, Maëlys, son logo de campagne est le poisson des premiers chrétiens. Parce qu'il s'appelle Jean-Frédéric Poisson.
J'ai compris.
Voilà.
Ah, il y a un jeu de mots.
Ouais, il y a un jeu de mots. Surtout, c'est l'affiche d'Alain Juppé qui a beaucoup fait parler d'elle. Sa sobriété a vite été raillée. Et le community manager de la campagne de Nicolas Sarkozy l'a publiée le 1er novembre sur Twitter pour souligner qu'elle ressemblait à un faire-part de décès. Vous jugerez du bon goût. Son slogan, un mandat pour agir, proclame l'affiche de celui qui a promis de ne faire qu'un seul mandat.
Ah bah, de toute façon,
je vais le faire.
Voilà, bon, on rigole pas sur la mort, ça se fait pas.
Oh, celle de Juppé, on peut, non? C'est comme Chirac, on a le droit.
Tu fais ce que tu veux. Je ne vais pas me lancer dans un exercice de sémiotique politique. Ce serait un peu trop long et sans doute un peu répétitif. Car les affiches sont rarement l'expression d'un talent de communication. On retrouve souvent les mêmes clichés. Le renouveau, la force, l'apaisement, et j'en passe, et j'en passe. Exercice périlleux que de se mettre en image et en mots. On se souvient de 2012 et des détournements qu'avait suscité l'affiche aquatique de Nicolas Sarkozy. L'affiche d'un bateau qui coule. Je me souviens d'un prof de lettres qui me disait en 2012 « On voit bien que c'est l'affiche d'un perdant. Regarde celle de Hollande, bien ancrée dans un paysage rural. Sur terre, on se tient droit, dans l'eau, on coule. » Hollande, parlons-en. Le fameux slogan « Le changement, c'est maintenant ». Pas la traduction du « Change is now » d'Obama en 2008. Et il est à double tranchant. Promettre le changement, promettre tout court, quelque chose tout de suite maintenant, c'est déjà susciter les déceptions. Qui n'a jamais entendu quelqu'un dire « Eh bien alors, le changement, c'est pas maintenant ?» Et autre plaisanterie du même acabit. Vouloir mélanger le mouvement Obama avec la tranquillité affichée d'un paysage qui rappelle l'affiche de campagne de Mitterrand en 1981, vous avouerez que c'est risqué. La revue Charles, dans son numéro 18, avait fait tout un dossier concernant la place des femmes dans les affiches de campagne. Et je vais m'y arrêter un instant. De Gaulle, qui n'était sans doute pas le président le plus féministe qui soit, avait pour affiche de campagne en 1965 un dessin d'enfant représentant une allégorie de la République, la cinquième pour être exact, qui disait « J'ai 7 ans, laissez-moi grandir », tout en tendant la main vers celle du général. Une autre affiche montrait une Marianne à coups de crayon en aquarelle, qui vantait les mérites de la Ve République que seul De Gaulle pouvait faire exister. Mais il n'y a pas que Marianne comme figure politique. L'utilisation des femmes ne cherche pas souvent à promouvoir la place des femmes en politique, mais plutôt à vendre un produit sexuel à un électorat masculin. L'extrême droite l'a bien compris. Et je cite la revue Charles. Marine Le Pen a un modèle féminin. C'est celui d'Alessandra Mussolini, la petite fille du dictateur fasciste Benito Mussolini. Ancienne actrice et mannequin, cette députée européenne est une véritable icône du fascisme italien. Et pour preuve, de nombreuses affiches du Front National sont de véritables copier-coller des affiches de l'extrême droite italienne qui mettent en avant des femmes, brunes ou blondes, mais toujours attrayantes et sexy.
Toujours blanches ?
Et toujours blanches. Quoique pour le
français, F... quand même.
Oui, on y... Merci pour le cliché raciste du jour. Non mais c'est très intéressant dans la revue Charles parce qu'il mettait en avant certaines affiches pour récemment où on mettait en avant des femmes des banlieues, notamment une affiche où on avait une femme avec une sorte de bandana et des traits bleu blanc rouge sur les joues et une femme en burqa. Symbole très important pour l'extrême droite. C'est le risque qui plane systématiquement sur les affiches de campagne des femmes candidates. On a reproché à Ségolène Royal en 2007 de proposer une image esthétisante d'elle-même, trop lisse, trop féminine. Avec cette affiche en noir et blanc, centrée sur le visage, avec un sourire crispé. Pendant les municipales de 2014, on avait reproché à Anne Hidalgo d'avoir fait retoucher son affiche pour gommer cernes et autres rides. Bref, on reproche aux femmes candidates de se plier au code marketing qui s'impose aux représentations féminines dans la presse et dans la publicité, comme si les politiques devaient être absolument naturelles et sincères. Ce reproche fait systématiquement aux femmes est-il pour autant absent chez les hommes ? Sans doute pas. Mais peut-être que l'impératif d'être beau pèse moins sur nos hommes politiques, toujours au détriment des femmes. Mais c'est en cela que l'affiche de Juppé aujourd'hui ou celle de Hollande en 2012 fonctionne. On attend d'un futur président qu'il soit sérieux, grave, qu'il ne cache pas son âge et les marques d'une sagesse. Les femmes doivent remplir tous ces critères et en même temps présenter un visage souriant, charmant, bref, inoffensif. Paradoxalement, le parti qui gagne du terrain, le Front National, ne s'engage pas dans cette voie au niveau local. Beaucoup ont plaisanté sur les campagnes des municipales, des départementales et des régionales qui présentaient des candidats et des candidates âgés et parfois esthétiquement peu vendeurs, le tout sur des affiches vieillottes et bas de gamme. Et pour autant, c'est eux qui font les scores. À croire que ce n'est peut-être pas à coup de slogans lancés en l'air et de sourires crispés qu'on arrive à gagner non seulement une élection, mais aussi l'opinion. Une affiche a beau nous marquer ou nous faire rire, reste qu'elle demeure une publicité, une vitrine plus ou moins attrayante, plus ou moins mensongère. Bref, je serai platonicien, ne vous laissez pas berner par les images, mais percez les idées. Pour finir cette émission politique, je me tourne vers Rémi, dont je ne sais pas encore ce qu'il nous a prévu pour son billet d'humeur et d'humour. Donc je passe tout de suite la parole à Rémi. Bonjour Rémi.
Bonjour Mathias, bonjour à tous.
Le billet de Rémi dans tous politiques sur Transistor.
Dans tous politiques sur Transistor.
Bon. Alors, c'est déjà ma deuxième chronique, et puis je me demande déjà ce que je fous là. Qu'est-ce que c'est que cette actualité qu'on nous donne, quoi? Enfin, je vais retourner tranquillement à mon émission de cinéma, ça sera mieux. Non mais alors, regardez, enfin, primaire écolo. Bon. Un ancien de Greenpeace gagne contre une ancienne de Greenpeace. Vous ne connaissez ni l'un ni l'autre? C'est normal. Personne n'est connu chez les Verts. Comment voulez-vous être connu sans mise en examen, sans affaire de détournement de fonds, sans conflit d'intérêts, enfin bref, tous ces apparats incontournables de la grande politique que les Verts ne peuvent vraiment pas se payer? Et puis, enfin, je veux dire, ils avaient par exemple un gros sénateur corrompu et arriviste, il est parti. Ils ont une ex-ministre ayant renoncé à ses idéaux pour intégrer un gouvernement de droite. Manque de bol, ils votent pas pour elle. Et il traînait dans un carton un 68 arc glapissant qui a déployé une telle énergie à retourner sa veste qu'on aurait pu l'utiliser pour remplacer les centrales nucléaires s'il n'était pas parti lui aussi. Bref, cette primaire, de toute façon, elle est déjà oubliée, si on s'y était intéressé un jour. Et puis tout le monde sait que les Verts resteront ce parti qui finira de toute façon par obéir aux ordres du PS, comme à chaque fois, parce que qu'on s'y trompe pas, s'ils sont verts, c'est aussi parce que les couleuvres, c'est super dur à digérer, et puis même parfois, on se les vomit dessus, c'est super gênant, mais c'est pas grave, pour laver des trucs chez les Verts, on sait faire. Enfin bon. Ça me fait penser qu'on n'en a pas non plus fini avec la primaire de la droite et de l'extrême droite, là, la fameuse, qui voit s'opposer un petit sac de tic et plein de grandes casseroles derrière, et un vieux bout de viande sèche en costume, avec deux ou trois fumiers autour pour faire joli. Mais là aussi, on s'en fout, hein, puisque cette primaire, c'est grosso modo une élection présidentielle. Et que les élections présidentielles, on s'en fout plus que tout. Non mais à la fin, c'est pareil, hein. On pose une écharpe tricolore sur un cuistre quelconque, et que le cuistre ait des grandes oreilles, un cancer, des talonnettes ou un casque de scooter, il a toujours les mêmes dents longues, pleines du sang répandu au nom du pétrole, et de la sueur versée au nom du fric de ses copains pour faire une analyse politique un peu poussée. Non, clairement, les présidentielles, on s'en fout. Hein. Ils continueront leur sauce entre eux avec leur caca, et à la fin, eh ben, c'est vous qui la mangez. Non mais regardez, maintenant qu'ils nous ont enfoncé leur dernier traité transatlantique à un endroit où seuls ceux qui peuvent se payer le meilleur chirurgien peuvent se les faire enlever, ils enchaînent avec un nouveau fichier avec toutes nos données, et vous savez quoi? Eh ben, on s'en fout. On va ficher 60 millions de personnes avec leurs photos, leur âge, leurs empreintes digitales et les dimensions de leurs organes sexuels. Même la ministre chargée du numérique dit « Ce décret a été pris en douce par le ministère de l'Intérieur un dimanche de la Toussaint en pensant que ça passerait ni vu ni connu. » Et le ministère de l'Intérieur lui répond, je cite, « Eh, on va pas lui demander son avis à chaque fois qu'on touche un ordinateur. » Oui, parce que du coup, ça passe pendant la Toussaint. Un pot de chrysanthème pour Mitterrand, un pour Chirac, un pour la dignité de François Hollande, et puis un pour la dernière trace de démocratie sur la robe déchirée d'une Marianne affaissée depuis longtemps dans le caniveau où elle nage au milieu des mycoses dégoûtantes laissées sur son beau corps par des générations de politiciens prompts à laisser traîner leurs discours avec les idées les plus douteuses.
Pauvre Marianne.
Non, je me livrerai pas à une analyse très poussée là non plus, parce que de toute façon, on nous prend tellement pour des cons que c'est impossible. Et d'ailleurs, leur stratagème marche comme d'habitude. Alors du coup, j'ai sélectionné pour vous les infos qui intéressent les Français sur les médias que les Français lisent. Et je commencerai avec cet édito passionnant et déchirant que publie le Huffington Post. Vous faisiez des blagues sur les gros à l'école. Vous avez peut-être détruit l'estime de soi des gens comme moi. C'est sorti aujourd'hui. Je rappelle également, et c'est très important, que IKEA célèbre les 40 ans du fauteuil Pong. On célèbre aussi les 3 ans du scandale avec le caca dans les tartes au chocolat. À part ça, Maria Carré devra probablement rendre sa bague de fiançailles, si vous voulez tout savoir. Et puis cette découverte scandaleuse faite par Le Parisien. Orthographe, le niveau des écoliers baisse. Enfin voilà. On glisse à l'oreillette aussi qu'une vache transgénique américaine a pondu une grosse bouse pleine de paille colorée à la pisse sur le siège présidentiel des États-Unis. Mais bon, on fait comme d'hab, hein. On s'en fout.
C'est sur cette note joyeuse et optimiste que nous vous quittons aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous cacher que je vais essayer de reprendre une petite cure de bonheur. Ça va être un peu difficile en ce moment, mais on va essayer.
Il y a le journal des bonnes nouvelles pour ça.
Voilà, donc je vous invite à aller écouter le journal des bonnes nouvelles. Bon, nous en attendant, on va aller prendre un petit verre de chocolat chaud et se mettre sous la couette en attendant que ça passe. Bon, je vous remercie, vous trois, d'avoir fait cette émission avec moi. Et à vous, chers auditeurs, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de Tous Politiques.
Fais les valises, on rentre à Paris.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
Tonton, veille sur vous.
Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions.
Au revoir.